Vous invite à ouvrir votre Bible dans la première épître de Pierre. La première épître de Pierre. Chaque année, souvent à peu près à l'approche de Pâques, il y a toujours des sondages qui sont faits, des choses qui sont dites sur le thème de la résurrection, ceux qui croient, ceux qui n'y croient pas. Et une question qui est posée souvent, c'est peut-on être chrétien sans croire à la résurrection de Jésus-Christ? Il y a des gens qui disent oui. Il y a des gens qui disent je n'ai pas besoin de la résurrection de Christ pour croire en Christ. Mais ce que nous avons lu dit que c'est impossible. Paul dit que si nous ne croyons pas que Christ est ressuscité des morts, c'est-à-dire la résurrection corporelle de Christ, eh bien, ce dans quoi nous croyons, c'est creux, c'est vraiment du vide. Et l'un des reproches peut-être qui est fait aux chrétiens dans notre monde, c'est qu'il a appris à enjamber la réalité du présent, hein, pour placer ses pensées dans un avenir, hein. Ça l'empêche un peu de ne pas voir la vie en face avec ses réalités, ses difficultés. Voilà, on dit souvent le chrétien, voilà, quand on lui parle, bon, ben c'est tout est pour l'avenir. Et c'est vrai que les pensées des croyants sont tournées vers l'avenir, vers ce que la Bible dit qui va arriver, vers la résurrection corporelle du croyant. Mais ce n'est pas pour cela qu'il ne vit pas dans la réalité. Je crois qu'il a plutôt appris à vivre dans cette réalité, vivre même cette réalité présente avec ses difficultés, avec les ressources que donne l'Évangile concernant son avenir. Et si vous lisez la parole de Dieu, la Bible, vous allez voir que il est souvent question de la résurrection de Christ, mais dans des circonstances parfois difficiles que les croyants vivent tous les jours. Et l'épître de Pierre, la première épître de Pierre est écrite à des chrétiens, ça commence comme ça, des chrétiens qui sont dispersés, mais qui vraisemblablement vivent des situations très difficiles. Alors regardez 1 Pierre chapitre 2, si vous êtes dans 1 Pierre, vous pouvez prendre 1 Pierre et au chapitre 2. 1 Pierre chapitre 2, et lire au verset 18, 1 Pierre chapitre 2 et au verset 18. Il est dit, serviteurs, soyez soumis en toute crainte à vos maîtres, non seulement à ceux qui sont bons et doux, mais aussi à ceux qui sont d'un caractère difficile. Car c'est une grâce de supporter les afflictions par motif de conscience envers Dieu quand on souffre injustement. En effet, quelle gloire y a-t-il à supporter de mauvais traitements pour avoir commis des fautes? Mais si vous supportez la souffrance lorsque vous faites ce qui est bien, c'est une grâce devant Dieu. Et c'est à cela que vous avez été appelés, parce que Christ aussi a souffert pour vous, vous laissant un exemple afin que vous suiviez ses traces. Donc il est clair que ces personnes à qui l'apôtre Pierre s'adresse souffraient. Et puis juste encore un texte pour bien asseoir cela, 1 Pierre chapitre 4, donc quelques pages plus loin, chapitre 4 et au verset 12, nous lisons ceci. Mes bien-aimés, ne trouvez pas étrange d'être dans la fournaise de l'épreuve. C'est pas juste une petite épreuve. Il appelle ça la fournaise de l'épreuve, comme s'il vous arrivait quelque chose d'extraordinaire. La souffrance n'est pas quelque chose d'extraordinaire pour le croyant. Mais il ajoute, verset 13, « Réjouissez-vous au contraire de la part que vous avez aux souffrances de Christ, afin que vous soyez aussi dans la joie et dans l'allégresse lorsque sa gloire apparaîtra. Vous voyez ici, il est question de se réjouir même dans les difficultés du présent, en considérant la gloire qui est à venir. Et donc, il faut garder en tête que ce que Pierre écrit, il écrit à des chrétiens qui souffrent. Alors, on arrive à notre texte pour ce matin, parce que vous pouvez vous demander quel est le lien avec la résurrection dans tout cela. Je vous invite donc à lire les premiers versets de 1 Pierre, chapitre 1. 1 Pierre, chapitre 1. Et à partir du verset 1, il dit « Pierre, apôtre de Jésus-Christ, à ceux qui sont étrangers et dispersés dans le Pont, la Galatie, la Cappadoce, l'Asie et la Bithynie, et qui sont élus selon la préscience de Dieu le Père par la sanctification de l'Esprit Saint, afin qu'ils deviennent obéissants et qu'ils participent à l'aspersion du sang de Jésus-Christ, que la grâce et la paix vous soient multipliées. Béni soit le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui, selon sa grande miséricorde, nous a régénérés pour une espérance vivante par la résurrection de Jésus-Christ d'entre les morts, pour un héritage qui ne peut ni se corrompre, ni se souiller, ni se flétrir. Il vous est réservé dans les cieux. À vous qui, par la puissance de Dieu, êtes gardés par la foi pour le salut, prêts à être révélés dans les derniers temps. » Jusqu'ici, notre lecture. Et vous aurez remarqué au verset 3 qu'il est question d'une espérance vivante. Comment ? Par la résurrection de Jésus-Christ d'entre les morts. Le verset, dans les tout premiers versets, l'apôtre Pierre parle de cette on pourrait dire intervention souveraine du Dieu trinitaire dans le salut des croyants. Vous voyez comment il s'est écrit ? Il dit, il écrit à ceux qui sont élus selon la préscience de Dieu le Père par la sanctification de l'Esprit afin qu'ils deviennent obéissants et participent à l'aspersion du sang de Jésus-Christ. Il parle de l'élection des croyants de manière souveraine par Dieu, et puis ensuite au verset 3, ça s'ouvre sur des actions de grâce. Et qu'est-ce qu'il dit ici ? Il dit « Béni soit le Dieu et Père, notre Seigneur Jésus-Christ, qui selon sa grande miséricorde nous a régénérés pour une espérance vivante par la résurrection de Jésus-Christ d'entre les morts. » On pourrait dire ici que l'apôtre Pierre commence par, il écrit à ses croyants qui vivent la difficulté, et il commence par brosser devant eux en une phrase toute l'histoire de leur salut. Depuis son origine la plus lointaine, voyez ici, élu selon la préscience de Dieu par la sanctification de l'Esprit, afin qu'il participe à l'aspersion du sang de Jésus-Christ, jusqu'à sa parfaite réalisation ici. Si vous regardez le verset 4, il dit qu'ils sont donc gardés pour un héritage qui ne peut ni se corrompre, ni se souiller, ni se flétrir, et il vous est réservé dans les cieux. Il dit à vous qui, par la puissance de Dieu, êtes gardés pour la foi et pour le salut, prêts à être révélés dans les derniers temps. Donc il est question de ce qui s'est passé depuis avant la création du monde jusqu'à ce qui se passera dans les derniers temps. Et c'est cette fresque qu'il présente vraiment devant ces croyants qui souffrent. Qu'est-ce qu'il leur présente ? Il leur présente Dieu dans sa miséricorde, premièrement, source de leur salut, miséricorde de Dieu qui les a sauvés. C'est ce qu'il souligne. La première chose que l'on peut noter, c'est vraiment dans cette action de grâce, c'est que Dieu, la miséricorde de Dieu est la source du salut du croyant. Et c'est une chose qui est importante de retenir. Donc on le dit rapidement, on ne va pas rester longtemps là-dessus, mais Tite dit par exemple que que Dieu nous a sauvés, non à cause des œuvres de justice que nous aurions faites, mais selon sa miséricorde. Et il est important de se rappeler, quand on est dans la difficulté, que Dieu nous a sauvés. Mais il nous a sauvés sur selon sa propre miséricorde. C'est en lui-même qu'il faut chercher la source de notre salut. Et c'est là que nous avons de la sécurité. C'est lorsque Timothée, l'apôtre Paul, souffrait, il invitait Timothée à souffrir avec lui en lui disant ceci, « Souffre avec moi pour l'Évangile, par la puissance de Dieu qui nous a sauvés et nous a adressé une sainte vocation, non à cause de nos œuvres, mais selon son propre dessein et selon la grâce qui nous a été donnée en Jésus-Christ avant les temps éternels et qui a été manifestée maintenant par la venue de notre Sauveur et Seigneur Jésus-Christ, qui a réduit la mort à l'impuissance et a mis en évidence la vie et l'immortalité par l'Évangile. » Il est question de mort et de résurrection ici, hein. Vous voyez, mais il part depuis l'origine aussi, l'apôtre Paul. Et pourquoi il fait tout cela? Pour inviter Timothée à supporter avec lui les souffrances de l'Évangile. La deuxième chose que l'on peut voir ici très rapidement, c'est que Dieu opère la nouvelle naissance dans le cœur. C'est ce que Pierre dit, hein. Regardez encore, il dit ici que Jésus-Christ, qui selon béni soit le Dieu et Père notre Seigneur Jésus-Christ, qui selon sa grande miséricorde nous a régénérés. Il nous a régénérés pour une espérance vivante. Il nous a fait naître de nouveau. C'est ça que le terme veut dire. Et on le retrouve au verset 23 du même chapitre où Pierre explique comment est-ce que nous sommes régénérés. Regardez le verset 23. Il dit « Vous avez été régénérés non par une semence corruptible, mais par une semence incorruptible, par la parole vivante et permanente de Dieu. » Cette parole que nous avons, l'Écriture, c'est ce qui nous régénère. C'est par elle que nous sommes régénérés. Et puis, il arrive à cette troisième chose, qui est celle sur laquelle je veux m'arrêter ce matin. Il dit ici que cette régénération a été pour une espérance vivante par la résurrection de Jésus-Christ d'entre les morts. Et le thème que nous avions mis sous nos invitations pour ce dimanche matin, c'est la résurrection de Christ, notre espérance vivante. Quel est le lien entre la résurrection de Christ et puis notre espérance? La résurrection de Christ est notre espérance vivante. Je voudrais souligner deux choses uniquement ce matin. Premièrement, deux grandes choses que nous voulons voir, c'est que le salut est un bien certain que l'on espère. Le salut, c'est un bien certain que l'on espère. Écoutez bien comment l'apôtre Pierre écrit ici. Il dit « Béni soit le Dieu et Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui, selon sa grande miséricorde, nous a régénérés pour une espérance vivante par la résurrection de Christ d'entre les morts. » Il montre que le salut est un bien, même une certitude, hein, si vous lisez les versets après, mais que le croyant doit toujours espérer. Bien sûr, il n'est pas question ici d'une espérance comme quand on dit « j'espère qu'il fera beau demain », c'est-à-dire qu'on n'a aucune certitude que cela va se passer. On va le voir, l'espérance chrétienne est une espérance certaine. Mais le chrétien est appelé à considérer, à voir le salut comme un bien, une certitude, un bien, mais qu'il doit continuer toujours à espérer. Regardez les versets suivants, il est question d'un héritage, hein. Souvent, un héritage, c'est quelque chose que l'on attend. Hein. Il y en a qui essayent de précipiter l'arrivée de l'héritage, hein, en supprimant les éléments gênants, hein, ce qui empêche que l'héritage ne soit consommé. Mais l'héritage, quand même, parle de quelque chose qui est à venir. Et puis, regardez ce qu'il dit ici. Il dit un héritage qui ne peut ni se corrompre, ni se souiller, ni se flétrir. C'est un héritage certain. Il est gardé même, il dit, dans les cieux, précieusement conservé. Mais plus tard, il dit ici, pour le salut prêt à être révélé dans les derniers temps. C'est-à-dire qu'il y a des choses encore qui doivent être accomplies concernant le salut. Et le chrétien est appelé à vivre dans l'espérance de son salut. Nous sommes appelés à vivre en tant que chrétiens dans l'espérance du salut. Alors comment est-ce que cela se fait? On dit, mais je croyais que moi, on est sauvé, et puis après, voilà, c'est terminé. Oui, mais regardez ce que l'apôtre Paul dit en Romains chapitre 8. Donc, je vous invite à ouvrir votre Bible en Romains chapitre 8. Verset 22. Il dit, nous savons que jusqu'à ce jour, la création entière soupire et souffre les douleurs de l'enfantement. Et ce n'est pas elle seulement, mais aussi nous qui avons les prémices de l'Esprit, nous soupirons en nous-mêmes en attendant l'adoption, la rédemption de notre corps. Question ici, hein, du fait que le fait d'être un enfant de Dieu sera pleinement et complètement manifesté, mais aussi le fait que nos corps seront ressuscités, glorieux. Donc il y a la notion de la résurrection qui est contenue dans ce passage, mais notez ce que l'apôtre Paul dit, nous attendons, il dit nous soupirons. Le chrétien attend la réalisation complète du salut. L'apôtre Paul le dit en utilisant ce terme, hein, qu'on retrouve dans 2 Corinthiens chapitre 5, verset 2, il dit, nous sommes dans une tente et nous gémissons. Nous attendons pour revêtir notre domicile céleste. Il dit qu'on parle le mot soupirer pour dire cela. Donc, comment? Il dit que l'Esprit nous dit, l'Écriture est un gage et un héritage. L'apôtre Paul dit ici, nous avons reçu les prémices de l'Esprit. L'Esprit nous est donné comme un gage de l'héritage à venir. C'est ce que nous pouvons lire, par exemple, en Éphésiens 1, 14, où il est dit, il est parlé du Saint-Esprit comme étant le gage de notre héritage pour la rédemption de ce que Dieu s'est acquis à la louange de sa gloire. Ou encore, vous pouvez lire en 2 Corinthiens 1, 22 et 2 Corinthiens 5, 5, on ne va pas prendre le temps de le faire, mais si vous notez, vous pouvez le lire après, où il est question que nous avons reçu l'Esprit qui sont les arts. Hein? L'Esprit, on a reçu les arts de l'Esprit. Donc ce que le chrétien a, si vous voulez, n'est pas encore arrivé à son plein épanouissement. C'est exactement ce que l'apôtre Jean dit quand il dit, bien-aimés, voyez quel amour le Père nous a témoigné pour que nous soyons appelés, quoi, enfants de Dieu. Et nous le sommes, dit-il. Mais, il y ajoute, ce que nous serons n'a pas encore été manifesté. Mais nous savons que lorsqu'il le sera, nous serons semblables à lui parce que nous le verrons tel qu'il est. Donc il y a, oui, quelque chose que nous avons, mais qui n'est pas encore arrivé à sa pleine réalité. Si vous voulez, on a la certitude, mais on n'a pas encore l'entièreté de la chose. Et il dit que cela, quand Dieu met son esprit en nous, son esprit nous fait soupirer après la pleine réalisation du salut, de notre propre salut. Et donc le croyant espère. Et Pierre dit que Dieu nous a régénérés pour une espérance vivante. Il nous fait espérer et espérer et espérer jusqu'à la réalisation pleine et entière du salut. Et il ajoute, si vous regardez, vous êtes toujours dans Romains chapitre 8, il dit au verset 24, « Car nous avons été sauvés, comment ? En espérance. Or, l'espérance qu'on voit n'est plus espérance. » Il dit, que, voilà, si tout était déjà là, il n'y a plus rien à espérer. Nous sommes sauvés en espérance. Et ce que quelqu'un voit, pourquoi aussi l'espère-t-il ? S'il voit déjà la chose, on ne l'espère plus. D'accord ? Quand elle est déjà là, il n'y a plus de raison d'espérer. C'est la réalisation même de la chose. Mais il dit, mais si ce que nous ne voyons pas, nous l'espérons, nous l'attendons avec patience. Et il affirme que le croyant, dans la position où il est placé, avec l'esprit que Dieu fait habiter en lui, est dans une position d'attente et d'espérance. Et donc, la vie du croyant doit être une espérance vivante. Il attend la pleine réalisation de son salut. Le chrétien qui n'attend rien du tout, qui vit au jour le jour, doit se poser des questions parce que c'est l'œuvre même de Dieu, du Dieu miséricordieux, que de régénérer le cœur, de le faire renaître de nouveau pour créer en lui une espérance vivante par la résurrection de Jésus-Christ. Ici. Et donc le croyant, il attend. Et quand on lit les Écritures, on le voit pas mal. Ça me fait penser à ce que le prophète Habacuc dit, que Dieu dit au prophète Habacuc concernant une prophétie qui doit s'accomplir. Il dit, c'est une prophétie dont le temps est fixé. C'est comme ça que nous devons voir le retour de Christ et la réalisation de toutes les promesses qui sont pour le croyant. C'est une prophétie dont le temps est fixé. Rappelez-vous ce que l'apôtre Paul dit à Athènes, aux philosophes. Il dit que Dieu, sans tenir compte des temps d'ignorance, qu'est-ce qu'il fait ? Il annonce que tous les hommes doivent se convertir. Hein. Il dit parce qu'il a fixé un jour. Il a fixé un jour. Le temps est fixé. Où il jugera le monde par l'homme qu'il a choisi. Et il dit que l'homme qu'il a choisi, c'est Jésus-Christ parce qu'il en a donné à tous une preuve certaine en le ressuscitant des morts. Le temps est fixé. Ici, la prophétie d'Habacuc dit, le temps est fixé. Elle marche à son terme, dit-il. Elle ne mentira pas. Si elle tarde, attends-la. Voilà ce que Dieu dit à son prophète. Il dit, les choses vont arriver. Le temps est fixé. Le terme arrive. Mais si elle tarde, pour Dieu, elle ne tarde pas. Elle semble toujours tarder de notre point de vue. Hein? Il dit, si elle tarde, eh bien, attends-la, parce qu'elle s'accomplira certainement. Et il répond, il dit encore deux fois, elle s'accomplira certainement. Et c'est dans cette attitude que Dieu veut que le croyant soit concernant sa propre résurrection et la manifestation pleine et entière des choses. Cette notion, chers frères et sœurs, d'espérance est profondément ancrée dans le salut. Regardons juste quelques textes, Éphésiens chapitre 1, verset 18. L'apôtre Paul écrit... Il prie pour ses croyants d'Éphèse et il dit que je cesse de rendre grâce à Dieu pour vous, verset 16, je fais mention de vous dans mes prières, verset 17, afin que Dieu, le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père de gloire, vous donne un esprit de sagesse et de révélation dans sa connaissance, qu'il illumine les yeux de votre cœur pour que vous sachiez quelle est quoi l'espérance qui s'attache à son appel. Il y a une espérance à saisir, à comprendre et à vivre en tant qu'enfant de Dieu. 1 Thessaloniciens 9, verset 10, vous vous rappelez de ce passage, l'apôtre Paul dit, « On raconte comment vous vous êtes convertis à Dieu en vous détournant des idoles pour servir le Dieu vivant et vrai et pour attendre des cieux son Fils qu'il a fait quoi ?» Qu'il a ressuscité, hein. Il parle, oui, c'est la résurrection. Son Fils qu'il a ressuscité, qui nous préserve de la colère à venir. Il dit, c'est ça, le salut, la conversion, c'est cela. On se tourne vers Dieu pour attendre celui que Dieu a ressuscité des morts. Et donc, vous voyez que la résurrection de Christ est quelque part le ciment, le fondement de cette attente aussi. Nous verrons ça tout à l'heure. Et puis, Philippiens chapitre 3, verset 21, où l'apôtre Paul dit que nous sommes des citoyens des cieux, d'où nous attendons celui qui transformera quoi, le corps que nous avons en un corps de gloire. Bon, je résume un petit peu, il dit un peu dans ce sens-là. Donc, l'apôtre Pierre souligne la même chose. Il dit que l'héritage est réservé dans les cieux. On ne l'a pas encore. Et donc, il faut l'attendre. Et cette espérance... dit l'apôtre Paul, ne trompe point, parce que l'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit qui nous a été donné. Donc la notion d'espérance est attachée au salut et constitue un puissant encouragement. Le croyant est amené à vivre l'espérance. Pierre dit que c'est une espérance vivante. Elle est vivante à cause de son objet. Quel est l'objet de cette espérance? C'est la vie éternelle en Jésus-Christ. C'est la vie. C'est la gloire éternelle. C'est ce que nous pouvons lire en Tite, je vais vous lire, chapitre 1, versets 1 et 2. Tite 1, 1, 2, l'apôtre Paul dit ceci. Il dit, Paul, serviteur et apôtre de Jésus-Christ, pour la foi des élus et la connaissance de la vérité qui est selon la piété, lesquelles reposent sur l'espérance de la vie éternelle promise avant tous les siècles par le Dieu qui ne ment point. Alors bien sûr, celui qui croit en moi, il a la vie, dit Jésus. Mais étant sur cette terre-là, on est encore en proie à beaucoup de, peut-être de souffrance, de détresse, le péché encore, et on le sent bien, mais on sait qu'un jour, tout cela disparaîtra. La vie sera vraiment une vie glorieuse, sans péché. Elle va être vécue dans toute sa plénitude. Même dans le livre qu'on est en train de regarder, 1 Pierre, chapitre 5, vous pouvez regarder avec moi, 1 Pierre, chapitre 5, au verset 10, 1 Pierre 5 et au verset 10, qu'est-ce qu'il est dit ici? Pierre 5, verset 10, il dit « Le Dieu, je pense que j'ai bien noté, le Dieu de toute grâce, qui vous a appelé en Jésus-Christ à sa gloire éternelle. » Ça, c'est la chose que l'on attend aussi, la gloire éternelle. Il dit « Après que vous aurez souffert un peu de temps, » on se rappelle qu'il écrit à des gens qui souffrent, « vous perfectionnera lui-même, vous affermira et vous rendra inébranlable. Il vous a appelé à sa gloire éternelle. » Et voilà pourquoi l'espérance doit être maintenue, qu'elle est une espérance vivante, parce que ce que l'on est amené à vivre est une gloire éternelle. Je vous lis juste un dernier verset concernant cela. En 1 Timothée 2, verset 10, il dit ici, pareil, non, Timothée 2, verset 10, alors, je pense que j'ai mal noté, de Timothée 2, verset 10, oui, 2 Timothée 2, verset 10, il dit, c'est pourquoi je supporte tout, l'apôtre Paul dit, quand il souffre, il dit, supporte tout à cause des élus, afin qu'eux aussi obtiennent le salut qui est en Jésus-Christ avec la gloire, comment? Éternelle. La vie éternelle, la gloire éternelle. Jésus, dans sa prière, dit, Père, je veux que là où je suis, ce que tu m'as donné soit aussi avec moi. Je veux qu'ils voient ma gloire. C'est ça que Dieu a pour le croyant. Et il dit que le fait d'être régénéré par l'Esprit de Dieu, par la parole, la semence de la parole, crée en nous cette espérance qui est maintenue vivante. C'est une espérance qui ne meurt point et qui ne se meurt point. L'espérance humaine disparaît parfois. Il y a des choses que l'on espère aujourd'hui et puis que l'on n'espère plus demain. Simplement parce que parfois les conditions de la réalisation de la promesse ne sont plus là. Même Abraham, voyez-vous, lorsqu'Abraham attendait la promesse et que l'ange vient et puis lui dit, voilà, je repasserai à ce même jour l'année d'après et puis ta femme sera enceinte. Il dit, nous sommes quoi? Usés de corps. Sarah dit, comment pourrais-je avoir encore des désirs? C'est-à-dire qu'il y a des moments où les circonstances même font qu'on n'espère plus parce que les circonstances ne sont pas propices à la réalisation de l'espérance. Rappelez-vous, avec l'apôtre Paul sur le bateau, quand il y avait le naufrage, il dit, nous avons perdu toute espérance de nous sauver, parce qu'il y avait un grand naufrage. Mais l'espérance chrétienne est une espérance qui ne tarit jamais, qui ne s'éteint jamais. Elle s'arrêtera seulement à la réalisation de l'espérance elle-même. L'apôtre Paul dit, trois choses demeurent, la foi, l'espérance et l'amour. la plus grande de ces choses, c'est l'amour, parce que l'amour, bon, ben, l'amour va toujours continuer quand nous serons au ciel, mais nous n'aurons plus besoin d'espérer, puisque nous allons maintenant voir. Mais ce qui est extraordinaire, c'est que l'espérance chrétienne est une espérance vivante en ce sens que elle ne s'éteindra jamais de notre vie. Job disait, même s'il me tue, je ne cesserai d'espérer en lui. C'est une espérance qui ne meurt jamais, une espérance qui trouve son aboutissement dans la réalisation de la chose espérée elle-même. Et c'est ce que je crois qu'il faut saisir avec ce que Pierre dit ici. Le salut est un bien certain que nous devons espérer. Nous devons, en tant que chrétiens, toujours espérer à la réalisation pleine et entière de notre salut. C'est une attitude dans laquelle nous devons nous trouver. Et puis, deuxième chose que je voudrais souligner, peut-être plus courtement, c'est que la résurrection de Christ garantit la réalisation de l'espérance. Elle la soutient même, on pourrait dire, et elle garantit la réalisation de l'espérance. L'apôtre Pierre dit, béni soit Dieu le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui, selon sa grande miséricorde, nous a régénérés par une espérance vivante par la résurrection de Jésus-Christ d'entre les morts. La résurrection corporelle, parce qu'il dit la résurrection de Christ d'entre les morts, donc il insiste bien sur la résurrection corporelle de Christ ici, soutient et garantit l'espérance vivante du croyant. On peut voir comment la mort de Christ avait plongé dans le désespoir ses disciples. Et on a lu ce matin au parc, dans Luc chapitre 24, l'histoire de ces deux hommes qui revenaient de Jérusalem et puis que Jésus rencontre, que le Christ ressuscité rencontre sur la route. Et qu'est-ce qu'ils disent à Jésus? Jésus dit, de quoi discutez-vous? Qu'est-ce qui se passe? Etc. Et puis, ils disent, quoi, est-ce que tu es le seul à Jérusalem qui ne sait pas ce qui s'est passé? Tout le monde sait ça, ce qui s'est passé. Et il dit, ben, nous espérions que ce serait, en parlant de Jésus, que ce serait lui, nous espérions, vous voyez ça ici, que ce serait lui qui délivrerait Israël. Mais avec tout cela, voici le troisième jour que ces choses se sont passées. C'est une manière de dire, voici, ça fait trois jours qu'il est mort. Il n'est plus là. Donc les espoirs sont anéantis. Pas de délivrance d'Israël. On avait tout misé sur lui. Tout. On pensait qu'il allait nous délivrer du joug des Romains, qu'il allait rétablir la nation d'Israël. Au lieu de cela, ils l'ont tué. Et qu'est-ce que va faire Jésus ? Il va se révéler à eux en leur expliquant l'Évangile et en ouvrant leurs yeux. Et la Bible montre que quand Christ leur explique l'Évangile, hein, ils le disent eux-mêmes, leur cœur commence à brûler au-dedans d'eux. Et puis on les voit avec une espérance complètement différente. Ils refont la route en sens inverse. D'accord ? Et je sais plus combien de stades ça faisait, hein, je ne sais plus combien ils disent, mais en tout cas, je crois que le texte le dit, je l'ai pas en mémoire, hein. Mais ils ont fait la route en sens inverse pour aller rejoindre les autres, remplis d'une grande espérance. Et le texte dit, quand ils sont arrivés, ils se dirent l'un à l'autre, notre cœur ne brûlait-il pas au-dedans de nous lorsqu'il nous parlait en chemin et nous expliquait les Écritures? Et se levant à l'heure même, ils retournèrent à Jérusalem, et ils trouvèrent les 11 et ceux qui étaient avec eux assemblés. Et vous savez ce qu'ils disaient ? Écoutez la phrase. Le Seigneur est réellement ressuscité. Et il est apparu à Simon. Et on voit que là, ça c'est le fondement, la cause de cette espérance vivante qui est là maintenant, qui est la vraie espérance qu'ils ont et qui ne va jamais les quitter. Jusqu'à la mort, ces hommes ont été fidèles. C'est pour cela que nous avons les Écritures. Hein? Et encore cet apôtre Pierre qui était là, qui a vu ce Christ ressuscité. C'est lui qui nous parle et qui nous parle de cette régénération qui est opérée dans le cœur par la parole de Dieu, de cette espérance qui en découle, soutenue par la réalité de la résurrection de Jésus-Christ. Toute la foi chrétienne, le frère l'a dit tout à l'heure, repose sur la résurrection de Christ. Est-ce que nous en sommes certains? Nous ne pouvons pas avoir d'évangile et de foi réelle sans la foi en la résurrection corporelle de Jésus-Christ. Mais la résurrection de Christ est aussi donne cette espérance parce qu'elle permet de vivre au sein même de la difficulté. Et c'est pour cela que l'apôtre Pierre expose ces choses aux croyants qui souffrent. L'apôtre Paul fait la même chose avec les Thessaloniciens. À un moment donné, ils sont troublés. Il y a des gens qui meurent autour d'eux, des frères, des chrétiens. Et ils pensaient peut-être que Christ allait revenir déjà avant, et ils les voient mourir et ils se posent des questions. Ils n'avaient pas beaucoup de connaissances. Ce sont des jeunes chrétiens. Ils se posent des questions pour savoir, mais qu'est-ce qui va se passer, etc. Et l'apôtre Paul leur écrit, et il dit ceci, regardez en Thessaloniciens 4, verset 13. Thessaloniciens chapitre 4, et au verset 13, il dit ceci. Il dit, nous ne voulons pas, frères, que vous soyez dans l'ignorance. Vous voyez, souvent l'ignorance, ça trouble, n'est-ce pas? Nous ne voulons pas que vous soyez dans l'ignorance au sujet de ceux qui sont décédés. Notre texte dit au sujet de ceux qui dorment. Hein. Vous avez peut-être cette traduction-là. Afin que vous ne vous affligiez pas comme ceux qui n'ont point de quoi? D'espérance. C'est-à-dire, Paul dit ici qu'il parle des autres. Hein. C'est qui les autres qui n'ont pas d'espérance? Voilà, ceux qui ne sont pas à Christ, les non-croyants. Le croyant est considéré comme celui qui a une espérance vivante. Le non-croyant comme celui qui n'a pas d'espérance et qui s'afflige, qui s'affole quand la mort arrive. Mais le croyant, il dit, vous n'avez pas à vous affliger comme ceux qui n'ont pas d'espérance. Et il leur dit pourquoi, regardez ce qu'il dit après. Il dit parce que si nous croyons, verset 4, 14, que Jésus est mort et qu'il est ressuscité, croyons aussi que Dieu ramènera par Jésus avec lui ceux qui sont décédés. Vous voyez ça, il dit, vous avez de l'espérance et votre espérance, elle est attachée au fait que Christ est mort et ressuscité pour vous. Si vous croyez cela, ne vous inquiétez pas à propos des croyants, des autres croyants qui sont déjà décédés. Ne vous en inquiétez pas. Croyez que Christ, puisez votre force dans la mort et la résurrection de Jésus-Christ. Donc Paul attache vraiment ici l'absence d'espérance à l'absence de foi et l'espérance à la foi dans la mort et la résurrection de Jésus-Christ. Ici. Et on a lu tout à l'heure déjà 1 Thessaloniciens 1, verset 10, où l'apôtre Paul établit un lien entre le Christ ressuscité et ceux qui se convertissent et qui se tournent pour attendre le Christ ressuscité. Mais regardez encore en Romains chapitre 8, Romains chapitre 8, et au verset 32, encore Romains chapitre 8, c'est aussi un contexte de souffrance, hein. Romains chapitre 8, et au verset 32, Romains 8, verset 32, si vous lisez à partir du verset 18, on va pas lire, là je vais juste les premières phrases, il dit, j'estime que les souffrances du temps présent ne sauraient être comparées au poids éternel de gloire qui, à venir, qui nous sera révélé. C'est ça le point de départ de Paul ici. Il dit, les souffrances qu'on a dans le temps présent, ça n'aura pas de poids devant ce que Dieu a en réserve pour nous. Et il continue ce développement-là, il arrive au chapitre, à la fin du chapitre, et il dit ici, au verset 32, « Lui qui n'a point épargné son propre fils et qui l'a livré pour nous, comment ne nous donnera-t-il pas aussi toutes choses avec lui ?» Verset 33, « Qui accusera les élus de Dieu ? C'est Dieu qui justifie. Qui les condamnera ? Christ est mort bien plus, il est ressuscité. Et il est à la droite de Dieu et il intercède pour nous. » On voit encore comment il utilise ici la résurrection de Christ comme fondement pour pousser les croyants dans la souffrance à espérer et à attendre. Parce que la résurrection de Christ garantit vraiment la réalisation de notre espérance. On le voit par l'énergie qui a animé les croyants, les premiers croyants, les apôtres, jusqu'à la fin. On ne meurt pas pour une cause qui n'est pas à ce point-là, pour une cause que l'on sait être une erreur. Si l'on se trompe sur la cause, c'est une chose. On peut mourir pour une mauvaise cause parce qu'on pensait qu'elle était bonne. Mais si on sait pertinemment que ça n'est pas vrai, cette chose, et qu'on va jusqu'à mourir pour elle, c'est pas possible. Hein? Les gens ne meurent pas pour des choses qu'elles ne croient pas. Et donc ces disciples étaient animés par ce qu'ils ont vu, par ce qu'ils ont entendu. L'apôtre Jean dit, nous avons vu, nous avons touché concernant la parole de vie. Et nous vous l'annonçons. Et ils sont pleins de cette espérance, pleins de cette énergie, prêts à offrir leur vie entière pour la cause de l'évangile. Parce qu'ils savent que Christ est ressuscité. Et qu'un jour, comme il l'a dit, il reviendra. Si Christ est ressuscité, comme il l'avait annoncé, tout ce qu'il a annoncé faire se réalisera. Et c'est pour cela que les gens, quand vous parlez avec eux, quand ils ne croient pas, ils disent, il n'y aura pas de jugement. Ah, Christ n'est pas ressuscité. Parce que si Christ est ressuscité, eh bien, ça change tout. Hein. Et alors, préfère ne pas croire que Christ est ressuscité. Les croyants ne disent pas que Christ est ressuscité pour arranger tout. Les croyants disent que Christ est ressuscité parce que la Bible l'affirme, parce que des témoins oculaires l'affirment. L'apôtre Pierre était un témoin oculaire. Lorsque l'apôtre Paul parle de la résurrection dans 1 Corinthiens chapitre 15, il base cela sur des faits historiques. Il dit, je vous annonce l'évangile que vous avez reçu, dans lequel vous avez cru. Il dit, vous y avez persévéré si vous le retenez dans les termes où je vous l'ai annoncé. Christ est mort, il dit, selon les Écritures, il a été enseveli, il est ressuscité, selon les Écritures, dit-il, n'est-ce pas? Et puis il est apparu à Céphas, et puis à beaucoup de gens. Il certifie qu'il y avait des témoins oculaires. La résurrection de Christ est un fait historique. Ça n'est pas une croyance, c'est un fait historique sur lequel le croyant s'appuie. Et Paul, Pierre, présente à chaque fois ce fait historique pour encourager les chrétiens à persévérer. Je termine en disant, quelle est votre espérance en ces jours où tout est troublé, en ces jours où l'on célèbre la résurrection de Christ? Je parle de votre espérance fondamentale. Je ne parle pas du fait de réussir au bac ou comme ça. Bon, c'est une espérance aussi, Mais fondamentalement, qu'est-ce que vous attendez le plus? Et je pose la question à tous ici. Qu'est-ce que nous attendons le plus? Est-ce que c'est ce qui sortira du grand débat national? Des mesures fortes que les politiciens vont prendre? Est-ce que c'est cela notre espérance? Paul dit que si notre espérance n'est que pour des choses présente, si c'est dans cette vie seulement que nous espérons, quand il parle de la résurrection, il dit, vous êtes les plus malheureux de tous les hommes, car Christ est réellement ressuscité. Pourquoi est-ce qu'on est malheureux? Parce que Christ est ressuscité. Si notre espérance n'est seulement dans les choses terrestres, nous sommes malheureux. Vous êtes malheureux. Donc, quelle est votre espérance? La Bible dit que les justes et les injustes vont ressusciter. Celui qui est mort et ressuscité pour nous a dit ceci, je vous le lis dans Jean chapitre 5, il a dit ceci, il a dit, en vérité, je vous le dis, l'heure vient, elle est déjà venue, où les morts entendront la voix du Fils de Dieu. Et ceux qui l'auront entendu vivront. Car comme le Père a la vie en lui-même, ainsi il a donné au Fils le pouvoir de la vie en lui-même. Et il lui dit, il lui a donné le pouvoir de juger parce qu'il est Fils de l'homme. Ne vous étonnez pas de cela, car l'heure vient où tous ceux qui sont dans les sépulcres entendront sa voix et sortiront. Ceux qui auront fait le bien ressusciteront pour la vie, mais ceux qui auront fait le mal ressusciteront pour le jugement. Et celui qui dit ça, c'est celui qui est mort et ressuscité par la puissance de Dieu. Ces paroles sont certaines. Ces paroles sont certaines. Et ces paroles nous appellent à la réflexion et à la repentance si nous ne croyons pas, si nous n'avons pas encore placé notre confiance en Jésus-Christ. Dès les temps anciens, ces choses ont déjà été annoncées. Ce n'est pas quelque chose de nouveau. Ce n'est pas quelque chose de nouveau. Laissez-moi vous lire ce que le prophète Daniel écrit à la fin de son livre. Il dit ceci, Daniel chapitre 12, il dit « Plusieurs de ceux qui dorment dans la poussière, ceux de la terre se réveilleront, les uns pour la vie éternelle et les autres pour l'opprobre et la honte éternelle, le châtiment éternel. » C'est cela que la résurrection de Christ rappelle aussi. Elle place le croyant dans l'attente de cette félicité éternelle. C'est ça son espérance vivante. Mais pour celui qui n'a pas placé sa confiance en Jésus-Christ, l'espérance n'est que celle de l'enfer et du châtiment et du jugement éternel. Et le dernier verset de Daniel dit ceci, chapitre 12, verset 13, Dieu lui dit, et toi, marche vers la fin, tu te reposeras et tu seras debout pour ton héritage à la fin des jours. Ça ressemble vraiment à ce que Pierre dit ici. Il nous a régénérés pour une espérance vivante, par la résurrection de Jésus-Christ d'entre les morts. C'est pas pour un héritage qui ne peut ni se corrompre, ni se souiller, ni se flétrir. Il vous est réservé dans les cieux par la puissance de Dieu à vous, qui êtes gardés par la foi, pour le salut, prêt à être révélé dans les derniers temps. Avez-vous placé votre confiance en Jésus-Christ? Juste lire pour terminer les paroles de ce cantique. Quelle est ton espérance? Quelle est ton espérance qui chante dans ton cœur? D'où vient ton assurance quand tout le monde a peur? Le cantique dit, notre Sauveur Jésus revient. Cette espérance bienheureuse, Dieu l'a promise, n'est point trompeuse. Telle est la foi qui nous soutient. Quelle est ton espérance? Quelle est donc, l'espérance qui chante en votre cœur? D'où vient votre assurance quand tout le monde a peur? Christ reviendra, nous le savons, et nous vivons dans cette attente. Alors, qu'importe la tourmente, le flot contraire ou l'aquilon, qui lance un grand vent, hein? Quelle est donc l'espérance qui chante en votre cœur? D'où vient votre assurance quand tout le monde a peur? Une question qui est posée aux chrétiens ici. Il dit, notre espérance est dans le ciel, mais nous vivons encore sur terre, dans le service et la prière, enracinés dans le réel. Quelle est donc l'espérance qui chante en votre cœur? D'où vient votre assurance quand tout le monde a peur? Il règnera, le Christ vainqueur, et du grand Dieu, soudain la gloire éclatera dans la victoire. Tous le verront en sa splendeur. Ô bonheur, l'espérance qui chante en votre cœur, devient notre assurance et chasse au loin la peur. Vous tous, venez, serrons les rangs, car du Seigneur le jour est proche. Au qu'il nous trouve sans reproche, soyons donc prêts dès maintenant. Et c'est aujourd'hui, la Bible dit, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas votre cœur. Le message de l'Évangile est un message que l'on doit recevoir. On ne peut pas se contenter juste de l'écouter. Ce qui s'est passé il y a 2000 ans est un projet qui a pris naissance dès avant la fondation du monde, dans le dessein éternel du Dieu trois fois saint. De celui de la main duquel personne ne peut résister. Il a choisi de régénérer les cœurs par la mort et la résurrection de son Fils Jésus-Christ. Et il dit que quiconque place en lui sa confiance ne sera point confus. Il sera sauvé. Quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Quiconque invoque le nom du Seigneur sera sauvé. Et aujourd'hui, c'est le jour où vous pouvez invoquer le nom du Seigneur Jésus-Christ. Vous ne savez pas de quoi sera fait demain. Vous ne savez pas si vous serez encore vivant dans la seconde. Moi non plus, si nous serons vivants dans la seconde qui suit. C'est maintenant. Nous ne pouvons conjuguer notre vie que avec ce mot. Maintenant, la seconde présente dans laquelle nous vivons. Et c'est dans ce temps que nous sommes appelés à placer notre confiance en Jésus-Christ. C'est une chose certaine que Jésus-Christ est venu dans le monde pour sauver les pécheurs. Mais c'est une chose aussi certaine que si nous ne plaçons pas notre confiance en lui, nous n'avons aucune espérance. Aucune espérance. Nous terminerons notre vie le jour de notre mort et nous devrons affronter pleinement le jugement de Dieu. Parce que la Bible dit qu'il est réservé aux hommes de mourir une seule fois, après quoi vient le jugement. Mais si vous êtes un enfant de Dieu, vous êtes appelé, nous sommes appelés à vivre l'espérance vivante, à vivre, à avoir constamment ces choses dans notre pensée, à nous réjouir de cela, à vivre une vie de sainteté, parce que quiconque a cette espérance se purifie comme lui-même est pur, dit la Bible. Nous sommes appelés à vivre une vie de pureté et de sainteté, et de pouvoir dire au monde, à ceux qui nous demandent raison de l'espérance qui est en nous, de pouvoir répondre avec douceur, Jésus-Christ est ressuscité. Il reviendra, il me l'a promis. Je le crois, je suis son enfant. Mais vous aussi, vous pouvez l'être. Que le Seigneur nous aide dans ces choses. Prions.